Nous avons vu la dernière fois en quoi consistait le miracle biblique, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une puissance dominant la maladie, les démons, les choses matérielles et la mort. Qu'ils étaient toujours visibles, tangibles et immédiats. Et nous avons même lu dans le Nouveau Testament quelques exemples confirmant ces caractéristiques. Nous avons ensuite démontré que les échecs rencontrés par ceux qui prétendent toujours pouvoir effectuer les miracles ne peuvent être attribués au manque de foi de la part de celui qu'on veut guérir, et que ce n'est pas faire montre de peu de foi que d'aller consulter un médecin. Mais beaucoup, après la première partie de mon argumentation, diront « Mais alors, pour quelle raison Jésus et ses disciples effectuaient-ils des miracles, et en particulier des guérisons ?» Avant de vous répondre, permettez-moi de vous dire que je suis toujours très heureux d'entendre poser ce genre de questions, car elle est logique et saine. Elle est le résultat d'une réaction toute normale, et je voudrais la rencontrer chez des milliers de personnes, car un des nœuds du problème se trouve précisément là. Essayons de nous replacer pendant quelques instants à l'époque et dans les circonstances où vivaient Jésus et ses disciples. Depuis des siècles et des siècles, le peuple juif a vécu sous le rigorisme de la loi de Moïse, qui de plus est codifiée et traditionnalisée à un point tel par les pharisiens que les gens finissent par ne plus en concevoir l'esprit et en arrivent à ne plus appliquer que la lettre. Le cœur de beaucoup, et notamment des dirigeants, s'est endurci. Chacun trouve son profit dans l'organisation religieuse établie. Le Messie, bien sûr, est annoncé par les Écritures depuis des centaines d'années. Mais le jour où il arrive enfin, personne ne veut l'admettre. 1500 ans auparavant, Moïse se trouve un peu dans le même cas quand il se présente devant le Pharaon pour lui annoncer qu'il vient délivrer son peuple. Quand Dieu lui est apparu et l'a investi de sa mission, Moïse répond aussitôt en parlant des Égyptiens, « Ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Dieu lui donne alors le pouvoir de faire certains miracles pour prouver qu'il est bien son envoyé. Mais avant tout, il doit convaincre le peuple juif qui se trouve là depuis plus de 4 siècles et qui lui aussi s'est habitué à cette situation. Arrivés en Égypte, Moïse et Aaron assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Moïse et Aaron, après avoir convaincu les Israélites grâce à leur miracle, vont maintenant suivre le même processus auprès du Pharaon qui, lui aussi, va finir par admettre qu'en effet, ils sont bien les envoyés de leur Dieu. Mais revenons maintenant au Messie dont Jean-Baptiste annonce déjà la venue aux gens. Le précurseur entend parler des miracles qu'il fait et lui fait dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus répondant à Jean-Baptiste en utilisant des faits probants. Il est plus que probable que sans ces miracles, la grande nouvelle du Messie ne serait pas parvenue jusqu'à lui. Le Christ n'a en réalité fait que la volonté de son Père, en accomplissant tout simplement une des prophéties le concernant. Ésaïe avait en effet prévu 750 ans auparavant ces miracles annonçant l'arrivée du Messie. La parole de Jésus se trouve ainsi confirmée par des miracles, tout comme dans le cas de Moïse. Le voilà le vrai but des miracles. Jean le confirme d'ailleurs d'une manière péremptoire quand il dit Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les apôtres se trouveraient confrontés avec les mêmes problèmes que Moïse et Jésus s'ils n'étaient pas eux aussi nantis de quelque chose qui leur permette de prouver qu'ils sont des envoyés de Dieu. Jésus leur avait dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais il avait également ajouté en parlant de ses disciples, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce merveilleux pouvoir, ils ne le reçoivent qu'après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Mais nous reviendrons sur ce point-là un peu plus tard. Le but profond des prodiges qu'effectuent Jésus et les apôtres est donc de confirmer leur dire, leur parole. Ce qu'ils proclament est donc la pure vérité puisque les miracles s'accomplissent en grand nombre. Après être arrivés à ce point dans notre étude, nous sommes en droit de nous demander si ce but qui a pleinement été atteint existe encore de nos jours. L'épistolier aux Hébreux va nous répondre en affirmant « Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La parole a été confirmée, nous dit la Bible. Le temps employé est le passé composé. Ce qui a été confirmé déjà par le passé, doit-il l'être encore et toujours? Doit-on juger encore et toujours un innocent pour confirmer sans cesse sa non-culpabilité? Non, n'est-ce pas? D'ailleurs, cette parole confirmée n'existe-t-elle pas maintenant sous forme écrite, définitive et incontestée? L'apôtre Jean ne nous disait-il pas il y a un instant, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom? » Jude nous dit également que la foi a été transmise aux chrétiens une fois pour toutes. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, leur fait comprendre ce même principe fondamental. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous pouvons donc être pleinement persuadés que la parole écrite et confirmée est largement suffisante pour nous amener au salut. À ce propos, lisons encore un dernier verset biblique. Il se trouve dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3 et les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que nous faut-il de plus que cela? D'ailleurs, pensez-vous que les miracles amèneraient les gens à se convertir davantage? Jésus lui-même répond à cette question dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui tous deux vont dans le séjour des morts. L'homme fortuné a été jeté dans les flammes, tandis que Lazare est heureux. Et nous assistons ici à un dialogue significatif entre le mauvais riche et Abraham. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Car j'ai son frère. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Les miracles qui nous sont décrits dans la Bible avaient un but excessivement précis, nous venons de voir. Ce but a été pleinement atteint, et nous pourrons affirmer qu'il n'existe par conséquent plus. Les apôtres et certains autres disciples étaient nantis de dons spirituels qui leur permettaient d'accomplir des miracles. Ces dons ont aujourd'hui disparu et je me propose de vous en entretenir lors d'une prochaine causerie. Je ne voudrais cependant pas que vous vous mépreniez en supposant que je nie la puissance de Dieu. Je crois de toutes mes forces que Dieu peut soulager la souffrance morale, physique et spirituelle. Mais je crois, comme l'a d'ailleurs dit Jésus, que cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je crois que quand on est malade, quand on souffre, il faut se mettre à genoux et prier prier et prier encore. Appeler notre Père à l'aide. Il faut lui parler à lui et non mettre notre confiance dans des promesses humaines qui ne peuvent nous apporter que des déceptions, de l'amertume et parfois nous pousser jusqu'à la révolte contre Dieu. Combien de fois n'ai-je pas entendu ce cri « Pourquoi ? Pourquoi Dieu ne me guérit-il pas ?» Une dame m'écrivait dernièrement « On m'a imposé 7 fois les mains pour me guérir. » Tu oublies ceux qui souffrent et pleurent. Pourquoi, mon Dieu? J'ai toujours aimé Dieu, j'ai cru en lui, mais je suis déçu, me disait-elle. En terminant, je voudrais vous lire ce que je lui ai écrit dans une de mes lettres. Chère madame, je devine en vous une grande détresse morale qui provient du fait qu'on vous a abusé et trompé en vous promettant des soi-disant guérisons miraculeuses. Je sais que ce que j'ai dit est dur. Mais je considère qu'il est temps que quelqu'un